Accent d'Europe, Eve Minot.
Bonjour à tous. Les Européens vont-ils sauver la Grèce? Alors que le peuple grec est amené à se prononcer dimanche par voie de référendum sur son avenir, une initiative citoyenne fait beaucoup parler d'elle. Tom Finney, jeune Britannique de 29 ans, originaire du nord de l'Angleterre, a lancé en ligne un appel à la solidarité avec le peuple grec. Objectif, récolter 1 600 000 euros à votre bon cœur. À Londres, Marie Billon.
Puisque les hommes politiques ne parviennent pas à nous sortir de ce pétrin, débrouillons-nous nous-mêmes. C'est ce qu'explique Tom Finney sur le site Indiegogo. Si chaque Européen donne 3,20€, ça suffit pour rembourser les 1,6 milliard d'euros que la Grèce doit au FMI. L'initiative paraît farfelue, mais elle a déjà plu à plus de 83 000 personnes en seulement 5 jours. En tout, le compteur affichait presque 1,5 million d'euros de dons jeudi après-midi. Sur Twitter, le hashtag Fund Greece fait fureur et Alexis Tsipras, le premier ministre grec, aurait même émis le souhait de parler à Tom Finney. La plupart des généreux donateurs ont sorti 3 euros de leur poche, mais on peut aussi donner 10 euros ou 25 ou 160 et même 5 000. Jeudi, 5 personnes avaient fait un don à 4 chiffres. Le jeune homme a d'ailleurs remarqué que ce sont surtout les Allemands qui jusque-là ont été les plus généreux. Malgré tout l'enthousiasme que cette initiative a suscité, le curseur qui montre le décalage entre le montant déjà récolté 1 million d'euros et celui qu'il faudrait récolter, 1,6 milliard, témoigne de l'ampleur du chemin à parcourir et l'appel de fonds s'arrête mardi. Selon les règles du site Indiegogo, si le but n'est pas atteint, tous les donateurs sont remboursés et il y a peu de chances pour que l'objectif des 1,6 milliard soit atteint. L'effort du jeune Britannique n'aurait été donc qu'une belle opération de com et même si on arrivait au 1,6 milliard, la Grèce a besoin en fait de 321,7 milliards pour rembourser sa dette entière. La BBC a calculé qu'il faudrait 40 000 ans de crowdfunding pour rassembler la somme si les dons continuent à arriver à cette vitesse.
Et pendant que les citoyens européens enchaînent les promesses de dons pour sauver la Grèce, les Grecs, eux, de leur côté, ne peuvent plus retirer que 60 euros par jour au guichet automatique. Depuis lundi, les banques sont fermées et un contrôle des capitaux rend plus difficile les virements à l'étranger. Ces mesures sont particulièrement mal vécues dans le secteur des nouvelles technologies tournées justement vers l'étranger. En attendant le vote de dimanche et surtout ses conséquences, certains cherchent donc des solutions très alternatives. Charlotte Stevenard a rencontré pour nous ces entrepreneurs très motivés.
Sur le site internet de Zero Fund, on peut lire « Êtes-vous une entreprise grecque bloquée par le contrôle des capitaux ? Nous essayons de vous aider en faisant vos transactions par procuration. » L'initiative est partie d'un groupe d'environ 5 entrepreneurs du secteur des nouvelles technologies basés aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis et en Allemagne. En début de semaine, leurs collègues en Grèce ont commencé à se plaindre sur les réseaux sociaux des restrictions de flux financiers. Ils ont donc cherché une solution pour les aider. Zero Fund propose aux startups grecques de payer pour eux les frais d'hébergement de leur site internet, de leur publicité ou encore de leur espace de stockage en ligne. Car les entreprises qui proposent ce type de service sont rarement basées en Grèce. Normalement, les startups grecques payent tout cela par internet, mais avec le contrôle des capitaux, ce n'est plus possible. L'État empêche les virements à l'étranger pour éviter le bank run, la fuite des liquidités. Une commission est chargée d'en autoriser certains, mais le processus est trop lent. Pour une startup qui propose ses services sur un site internet hébergé sur un serveur aux États-Unis, par exemple, ne pas pouvoir payer l'abonnement, cela signifie l'écran noir et donc une mort certaine. Un des fondateurs de cette initiative, c'est Panayotis Papadopoulos. Ce grec vit à San Francisco et travaille pour Splunk, une multinationale américaine qui a racheté sa start-up, une application pour smartphone. Il est rentré pour voter pour le référendum. Lui et ses amis financent le projet de leur propre poche et ne font aucun bénéfice, disent-ils. Jusqu'ici, une trentaine d'entreprises ont fait appel à eux. Ce sont de petites sommes, 45 à 180 euros en général. Mais Panayotis Papadopoulos est inquiet pour la suite. Certaines entreprises du tourisme doivent, par exemple, financer des campagnes de publicité à l'étranger pour plus de 10 000 euros. Si le contrôle des capitaux dure plus qu'une semaine, difficile pour Zero Fund de faire face à ce genre de demande. Chypre s'était retrouvé dans la même situation début 2013. Au lieu de 2 jours, il a finalement fallu 2 ans pour lever entièrement toutes les restrictions sur les transferts de fonds. Une expérience France qui a pénalisé la reprise économique. Alexis Tsipras est conscient de ses inquiétudes. Il affirme que ces mesures prendront fin dès l'accord avec les créanciers qu'il espère obtenir dans les 24 heures après le référendum.
Juger ces criminels de guerre, une démarche douloureuse qui concerne plus d'un pays, y compris aujourd'hui aux portes de l'Europe, au Kosovo. 16 ans après la fin de la guerre, le Parlement de Pristina a dit non à un tribunal spécial chargé de juger les crimes imputés à l'armée de libération du Kosovo, l'UÇK, qui serait aussi revenu sur le passé trouble de certains parlementaires. Désormais, la responsabilité de créer ce tribunal revient donc au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un désaveu pour le gouvernement, mais aussi pour les diplomaties occidentales. De la capitale kosovare, Laurent Gélin.
L'aigle noir sur fond rouge du drapeau albanais, des slogans qui fusent, des portraits des commandants Sami Lushtaku et Suleiman Selimi, d'anciens membres de l'armée de libération du Kosovo, l'UÇK. Les deux hommes étaient dans le maquis quand la guérilla albanaise se battait contre les forces de sécurité serbes en 1999. Ils ont récemment été condamnés à de lourdes peines par un tribunal du Kosovo pour des meurtres et des actes de torture contre des civils. Des sentences qui ne sont pas du goût des vétérans de l'UÇK qui manifestent régulièrement dans les rues de Pristina.
Les injustices faites à ce peuple en général et à l'UÇK en particulier, ça se passe tous les jours. On les emprisonne injustement. Le peuple est derrière nos commandants. On les emprisonne sans raison.
En 2010, l'enquêteur du Conseil de l'Europe, Dick Marty, publiait un rapport sur un possible trafic d'organes organisé en 1999 par certains membres de l'UÇK. Accusation confirmée en 2014 par l'équipe du procureur américain Clint Williamson. Depuis, les Occidentaux ont fait pression sur le gouvernement kosovar pour voter la création d'un tribunal spécial chargé de juger ces crimes. Ancienne députée des Serbes du Kosovo, Rada Trajković espère que la justice sera un jour rendue.
C'est important pour nous parce que la Serbie a été punie en raison de ce qu'ont fait Milosevic et son régime. Les Albanais ont été récompensés par l'Occident avec la création d'un État. Naturellement, nous, les Serbes, nous attendons un bénéfice politique de la reconnaissance des crimes commis contre les civils serbes du Kosovo. Peut-être même une redéfinition de la position occidentale sur l'indépendance.
La coalition gouvernementale s'est démenée ces dernières semaines pour convaincre les députés du Parlement de voter la création de ce tribunal qui doit siéger hors des frontières du Kosovo afin d'éviter d'éventuelles pressions sur les juges et les témoins. C'est ce qu'explique Anton Chuni, député de la Ligue démocratique du Kosovo, LDK, en coalition avec le Parti démocratique du Kosovo, PDK, de l'ancien Premier ministre Hashim Thaçi.
Nous avons eu de mauvaises expériences, ce qui explique la création du tribunal hors des frontières du Kosovo. Il y avait des pressions sur les témoins, les procureurs, les juges. Nous pensons qu'avec la création du tribunal hors du Kosovo, ces interventions seront minimisées.
Le 26 juin dernier, la coalition gouvernementale a pourtant échoué à obtenir les deux tiers des voix nécessaires à une modification de la Constitution, un prérequis pour créer une cour hors du Kosovo. 9 députés du PDK ont voté contre. Il faut dire que beaucoup d'hommes politiques kosovars issus des rangs de l'UÇK craignent la création d'un tribunal qui risquerait bien de les inculper. Par ailleurs, le parti d'opposition VTVN Dossier s'oppose aussi à la création de cette instance pour des raisons de principe. Comme le souligne son président, Visar Imeri.
C'est une violation directe de la souveraineté du Kosovo. Cela équivaut à établir un tribunal et un système judiciaire parallèle. Ce tribunal est basé sur une falsification des faits historiques qui se sont déroulés au Kosovo lors de la dernière guerre de libération contre la Serbie. Ce tribunal applique une justice sélective puisqu'il ne jugera les crimes que d'un seul camp, ceux commis par l'armée de libération du Kosovo. Il ne s'occupera pas des crimes bien plus grands commis par l'armée armée et les paramilitaires serbes.
Désormais, c'est donc au Conseil de sécurité de voter la création de ce tribunal, ce dont se seraient bien passés les Américains et les Occidentaux en froid avec Moscou depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.
L'Union européenne et les États-Unis veulent être débarrassés de ces allégations mises en avant par le rapport Marty et par l'enquête de Williamson, parce qu'ils ont été politiquement présents au Kosovo depuis 1999. Ils veulent que tout cela soit réglé.
Nul doute que la Russie ne manquera pas de pointer la responsabilité des capitales occidentales dans les crimes qui se sont déroulés au Kosovo à la fin des années 90. En effet, beaucoup d'entre eux ont été commis alors que la mission des Nations Unies au Kosovo, la MINUC, administrait déjà l'ancienne province serbe.
Peut-on encore parler de liberté de la presse en République tchèque ? 25 ans après la fin du monopole public sur les médias, la communauté journalistique s'interroge. Éditorialistes recrutés par le pouvoir, rédactions qui renoncent à critiquer leurs actionnaires, on observe ces dernières semaines de nombreux conflits d'intérêts. Un reportage d'Alexis Rosenzweig.
Quand l'un des éditorialistes les plus respectés de la presse tchèque est récemment passé d'un quotidien à un autre, le transfert a été largement commenté. D'autant que Jan Maháček a été recruté par l'un des deux titres que possède le ministre des Finances, Andrej Babiš. Quelques semaines plus tard, l'une de ses nouvelles collègues au sein de la rédaction de Lidové Noviny s'est étonnée de la ressemblance entre l'un de ses éditoriaux et un document du parti politique d'Andrej Babiš. Katerina Šafářiková raconte la suite elle-même.
Un jour, j'ai trouvé que mon collègue, il n'est pas seulement journaliste, donc mon collègue journaliste qui écrit des commentaires pour Lidové Noviny, mais aussi qu'il est un consultant pour Andrej Babiš, donc le vice-premier ministre, le ministre des Finances. Et donc, c'est-à-dire qu'il joue un rôle actif dans la politique. Et donc, je trouve que cette unification des deux rôles, l'amalgame des deux rôles, est non acceptable. Je n'accepte pas. Et donc, j'ai présenté des faits à mon éditeur en chef. J'ai présenté le mélange des deux rôles, mais c'était pas très important pour lui, et donc pour moi c'était pas acceptable, donc c'est pour ça que j'ai démissionné.
Une démission annoncée sur les réseaux sociaux et qui a fait du bruit, car Katerina Šafářiková est également une journaliste chevronnée, ancienne correspondante à Bruxelles dont la signature est connue de tous. L'éditorialiste mise en cause s'est défendu et a comparé sa situation au plus célèbre des chroniqueurs américains du New York Times. Mais même ses plus proches collègues ont eu du mal à accepter ce mélange des genres. Depuis cette affaire, sa signature est précédée d'une mention indiquant qu'il dirige l'institut, ou plutôt le think tank, du parti du ministre. Au-delà de cette affaire, pour le président du syndicat des journalistes tchèques, Adam Černý, c'est l'évolution de ces dernières années qui est problématique en soi pour la presse nationale.
Avec la crise, avec le déclin, ces investisseurs étrangers, surtout les investisseurs allemands, se sont retirés du marché. Alors c'était des groupes économiques, industriels qui sont arrivés dans la scène médiatique tchèque, ce qui provoque un problème dans certains cas assez grave. Je cite spécifiquement le cas de M. Babiš, seulement un entrepreneur, mais aussi un acteur politique qui est à la tête d'un mouvement politique. Il est devenu vice-premier de la République et ministre des Finances. Alors, ça constitue un conflit des intérêts frappant.
Une situation nouvelle pour une presse tchèque redevenue libre depuis seulement un quart de siècle et la chute du communisme, avec donc ses hésitations sur la marche à suivre et la ligne éditoriale à tenir. L'hebdomadaire Respect a pendant un temps choisi de ne jamais parler des affaires de son propriétaire, Zdeněk Bakala, surnommé le baron du charbon. Un choix sur lequel la rédaction est récemment revenue, car il devenait de plus en plus difficile d'éviter toutes les ramifications du business de ce millionnaire. Pour Katerina Šafářiková, également passée par la rédaction de Respect, c'est le risque de l'autocensure qui plane sur le journalisme d'investigation local.
Je ne sais pas très bien si l'article qui critiquerait le propriétaire passerait par l'adhérent en chef. Oui ou non? Assez souvent, mes collègues n'ont pas l'énergie, la volonté, le courage de se battre. Donc ils se retiennent, ils disent voilà, je m'en fous. C'est l'autocensure.
La République tchèque a désormais un problème d'oligarque. C'est le titre d'un récent article du magazine américain Foreign Policy consacré à la montée en puissance d'Andrej Babiš et à ses multiples conflits d'intérêts potentiels. Certains n'hésitent pas à parler d'une berlusconisation du pays. Dans les rues de Prague, les avis sont partagés sur la récente arrivée en politique de cet homme d'affaires qui a fait fortune dans l'agrochimie avant d'investir dans tous les domaines, de la reproduction assistée jusqu'aux médias donc. Selon moi, c'est un énorme problème, dit cette enseignante. On ne connaît ni ses idées, ni ses véritables ambitions, et le fait qu'il possède désormais des médias fait que la presse manque de neutralité. De manière générale, les potentiels conflits d'intérêts de M. Babiš sont un problème, concède Peter, un retraité qui a émigré aux États-Unis sous le communisme, mais j'ai plutôt l'impression que le mettre en cause fait partie d'une stratégie de l'opposition pour déstabiliser la coalition gouvernementale. Bien sûr, les organes de presse qu'il possède sont devenus moins crédibles, mais c'est difficile parfois de faire face aux campagnes médiatiques, explique Mirek, un jeune entrepreneur pour lequel il serait important que la législation change et empêche les politiciens de contrôler des médias. Ce n'est pas comme ça que la démocratie doit fonctionner, ajoute-t-il. Le quatrième pouvoir de la démocratie tchèque traverse en tout cas une passe difficile. Au syndicat des journalistes, on se rassure comme on peut, et le président espère que la prochaine arrivée sur le marché de la version tchèque du magazine Newsweek, financé par un groupe slovaque, va apporter un souffle nouveau à la presse locale.
Musique. Et c'est à présent l'heure d'adoucir les mœurs avec vous, Vincent Théval. Quel musicien européen avez-vous choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui?
Je propose aujourd'hui de faire la connaissance de Jenny Wahl, norvégienne de 35 ans et sacré personnage au parcours atypique. Elle a commencé par chanter au sein d'un groupe de hard rock gothique, puis elle s'est installée quelques années à Melbourne, en Australie, où elle a notamment étudié l'écriture et la littérature, un goût et une expérience dont elle fait usage de multiples façons depuis son retour en Norvège au mi-temps des années 2000, d'abord en collaborant avec des journaux et des revues, puis en publiant son premier roman en 2009, et enfin en écrivant des chansons qu'elle sort d'abord sous le nom de Rocket to the Sky, avant de les signer de son vrai patronyme. Son nouvel album vient de paraître, il s'intitule Apocalypse Girl, et Jenny Wahl y développe un style très particulier, une écriture plutôt narrative et assez crue, et une musique souvent synthétique et expérimentale, comme sur le label Why This.
Envoûtante de la norvégienne Jenny Wahl sur le titre Why This. Merci Vincent et à la semaine prochaine. C'est ainsi que se termine Accent d'Europe. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Françoise Grelot. Vous nous retrouvez bien sûr sur la page internet de l'émission ainsi que sur les réseaux sociaux. Toute l'équipe vous dit à lundi.